Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire Faso IAFA. Chaque semaine, nous mettons en lumière les réalités et les défis humanitaires qui touchent nos communautés tout en explorant des solutions porteuses d'espoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'embouche bovine et pour cela, cap sur la ville de Kaya, au centre nord du Burkina, où l'embouche bovine faisait vivre de nombreux éleveurs. Autrefois, ils parcouraient le pays et même la sous-région pour vendre leurs bêtes. Mais aujourd'hui, l'insécurité complique leur métier. Vous les entendrez dans ce reportage. Sur les sites de déplacés internes, reconstruire sa vie est un combat quotidien. L'embouche bovine est-elle encore une activité rentable dans ces conditions? Momo n'y croit pas, une cigogne. Pour lui, l'élevage est une perte de temps, mais Nafou est bien décidé à lui prouver le contraire. Réussira-t-elle à le convaincre? On le saura dans un instant. Selon le docteur Moussa Ouedraogo, médecin vétérinaire, l'embouche bovine pourrait aussi avoir un impact positif plus large. Elle permettrait de rendre la viande plus accessible en augmentant l'offre sur le marché. Dans le Kibar utile de la semaine, il donne ses conseils pour réussir dans ce domaine et en tirer le meilleur profit. Et pour terminer, aujourd'hui, nous recevons Flora Paré, artiste engagée et ambassadrice pour l'égalité des genres. Elle nous parlera de son parcours, de son engagement à travers la musique et nous fera découvrir son titre Espoir. À ne pas manquer, voici un aperçu des sujets qui seront développés dans cette édition. Merci de votre fidélité. Je suis Emeroulan Widraou. Dans la ville de Kaya, région du Centre-Nord, de nombreux éleveurs faisaient de l'embouche et de la vente d'animaux leur chou gras. Ces derniers sillonnaient les villes du Burkina et des pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire, pour vendre leurs bêtes. Mais depuis quelques années, ils ont du mal à exercer convenablement leur métier à cause de l'insécurité au Burkina. Ils en parlent dans ce reportage de Olivia.
Jour de transaction au marché de bétail de Kaya. Ce gigantesque parc animalier renferme entre autres des bœufs, des moutons et des chèvres dans des enclos ou attachés les uns aux autres. Vendeurs et acheteurs s'activent quant à eux dans l'espoir de faire de bonnes affaires. Dans cette atmosphère bouillonnante, nous rencontrons Ousseni Belemviré, venu acheter des moutons.
J'achète les moutons et je revends. Avec le vendeur, on s'est entendu et j'ai acheté 3 moutons à 395 000 francs CFA. Je trouve les prix abordables car au marché passé, j'aurais eu le même nombre à 410 000 francs CFA ou 415
000. Ces moutons, il les a achetés chez Mouniane Bari, éleveur et déplacé de la commune rurale de Barsalogo. Installé à Kaya depuis maintenant 2 ans, cet éleveur prospère dans l'embouche et la vente des animaux depuis plus d'une vingtaine d'années. Il vendait ses animaux hors des frontières du pays, mais avec l'insécurité qui sévit depuis quelque temps, l'éleveur est confronté à des difficultés dans l'élevage et l'écoulement de ses animaux.
Depuis mon arrivée à Kaya, il m'est difficile de pratiquer l'embouche. Ici, je suis obligé de payer les aliments à bétail ainsi que l'herbe. Je loue également la cour qui me sert à parquer mes animaux. C'est la seule activité que je pratique et avant l'insécurité, c'est grâce à elle que j'arrivais à prendre les besoins de ma famille en charge. Les prix des moutons varient entre 75 000 et 150 000 francs. Avant même, je pouvais vendre 100 moutons en une seule journée, mais actuellement sur 100 têtes, je peux seulement vendre 30 ou 40. À cause de l'insécurité aussi, on ne peut pas vendre nos animaux dans les pays voisins.
Mouniane Bari n'est pas le seul à avoir des difficultés dans la pratique de l'embouche. Amadou Bari, un autre éleveur, vit la même situation. Même si, contrairement à Mouniane, il arrive quelquefois à exporter son bétail vers la Côte d'Ivoire, il dit vendre souvent à perte dans ce pays voisin. Faute de mieux, il est obligé de continuer cette activité.
Des fois, je vends à perte. Des fois, je fais des bénéfices de 2500 par tête de moutons vendus. C'est avant que nous réalisions de bonnes affaires. Seulement, on a le choix que de continuer cette activité pour avoir de quoi donner de l'argent de popote. Actuellement, nous pouvons convoyer nos animaux seulement en Côte d'Ivoire. Et là aussi, le climat des affaires n'est pas au beau fixe. On peut se retrouver à vendre un mouton à 90 000 francs alors qu'on l'a acquis à 100 000 ou ou même se retrouver avec 2 500 ou 2 millions après vente, alors que le fonds de commerce était de 3 millions.
Les activités de Mounyané, d'Amadou et de nombreux éleveurs sont mises à rude épreuve à cause de l'insécurité. Une de leurs forces majeures est que cela ne les empêche pas de faire preuve de résilience tout en espérant un retour rapide de la paix.
La fille qui bat.
L'insécurité qui frappe le Burkina Faso n'affecte pas seulement le commerce du bétail, elle complique aussi la gestion sanitaire des troupeaux en déplacement. Comment assurer la bonne santé des animaux dans ces conditions précaires? Quels sont les gestes simples et accessibles pour préserver leur bien-être et garantir une viande saine à la consommation? Le docteur Moussa Ouédraogo, vétérinaire, nous éclaire sur ces questions. Il est au micro de Awamoniratu Tankwano.
Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Dites-nous, comment faire pour la bonne santé de ces animaux quand on se retrouve dans une situation de déplacement où on n'a plus les moyens de s'en occuper comme il le faut?
Vous savez, l'État, avec la campagne qu'il fait, il essaie de vacciner contre les maladies essentiellement telles que la passerellose, telles que la peste des petits ruminants, qui sont vraiment des maladies qui déciment la population. Voilà, donc la population animale en fait. Donc quand ces vaccins sortent, c'est presque gratuit. Donc c'est d'abord prendre soin à travers ces vaccins, parce que ces animaux qui quittent d'une zone à une autre zone, ils sont sujets à transporter des germes, ils peuvent le disséminer et le propager. Et aussi, quand on est déplacé aussi, les moyens manquent souvent, donc il faudrait essentiellement accentuer sur les fourrages qu'on peut retrouver à tout bout des champs, l'herbe en quelque sorte.
Justement, avez-vous des astuces simples qui ne nécessitent pas grands moyens et qui permettent de préserver la santé de ces animaux?
Il faudrait veiller à l'hygiène. L'hygiène des abreuvoirs, l'hygiène des mâchoires, la qualité même de l'herbe que vous donnez. Parce que la plupart du temps, ce qu'on constate, les gens pensent que comme c'est un animal, voilà, il faut donner tout. Alors que les mêmes germes qui peuvent causer de la maladie chez les humains, beaucoup de ces germes aussi se retrouvent chez les animaux.
Que faut-il donner à ces animaux si on veut faire de l'embauche revente, de sorte à ce que la chair de l'animal ne soit pas impropre à la consommation?
Pour ce que je vais dire, c'est essentiel. Seulement quand on parle d'embouche, c'est de mettre les animaux en fin de carrière pour ajouter du gras et les faire sortir dans un délai. Dans les normes, c'est 3 mois, mais dans nos contrées, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Donc, essentiellement, dans ces 4 mois, vous allez voir que le régime alimentaire de l'animal va augmenter. On augmente en qualité et en quantité. Maintenant, il s'avère que comme ces individus sont dans des déplacés internes, il y a des techniques telles que le fourrage que j'ai dit qu'ils peuvent ne pas acheter. Voilà, ils peuvent aller faucher, mais quand ils ajoutent juste du sel, badigeonner avec du sel, c'est plus appétissant. Ça permet à l'animal d'en prendre plus qu'il en faut et ça peut, d'une manière ou d'une autre, faire croître vite l'animal. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est essentiellement l'enrichissement à l'urée qu'on connaît, qui peut avoir la même valeur protéique comme de la protéine que vous consommez. Donc, ça, c'est à moindre coût, mais ça, je précise parce qu'il y a beaucoup d'intoxication. Il ne faut pas le faire à l'aveuglette. L'enrichissement à l'urée, il faudrait contacter les agents du terrain qui peuvent éventuellement vous dire quelle quantité il faut mettre pour quelle quantité d'herbe. Si vous arrivez à maîtriser ça, ça peut remplacer le concentré qu'on vend industriellement, le sac de 50 kg à 11 500. Donc vous voyez que vous gagnez quelque chose, que vous fauchez directement au champ, vous enrichissez ça à la même valeur et souvent même plus.
Dites-nous docteur, quelles sont les bonnes pratiques pour faire de l'élevage à la maison?
Souvent quand vous vivez avec ces animaux, il y a ce qu'on appelle les maladies zoonotiques, c'est-à-dire une maladie qui peut quitter l'homme pour aller à l'animal, comme ça peut quitter de l'animal aussi aller à l'homme. Donc il faudrait éventuellement, je peux prendre par exemple le cas de la brucellose, le cas de la tuberculose, tout de suite, donc il faudrait un système intensif ou bien dans vos locaux, quand vous voyez qu'un animal touche et que c'est bizarre, il faut alerter vite pour que le diagnostic puisse être établi le plus tôt possible. Je vous donne un exemple, moi j'ai fait des prélèvements sanguins de façon aléatoire pour analyser l'animal. Quand tu le vois, il marche normalement, tu ne vois pas de signe de tuberculose, mais sur 10, j'ai eu 7 qui étaient tuberculés. Donc ça veut dire qu'ils ont le germe et ils touchent, voilà, la mort sort. Et souvent vos enfants qui partent donner l'herbe, qui partent donner la nourriture, n'ont pas souvent le temps, le réflexe après leur retour de laver les mains. Donc vous transportez directement les germes. Donc vraiment c'est de veiller à l'hygiène aussi alimentaire, que la qualité de l'eau aussi qu'ils boivent. L'autre aspect aussi qui est très important, il faudrait éventuellement respecter le délai d'attente des médicaments. Parce que si vous ne respectez pas ce délai d'attente des médicaments, vous allez commercialiser de la viande et ceux qui consomment développeront une résistance. Tu vas aller te coucher à l'hôpital, on traite, on fait les antibiogrammes, on fait tout, mais il n'y a pas de résultat parce que tout simplement ton organisme s'est habitué déjà aux molécules qui ne viennent nulle part que chez l'animal que tu as consommé.
Et le délai d'attente réglementaire est de combien de temps?
Donc il faut dire que le délai d'attente ça varie entre la molécule. Quand on prend par exemple l'amoxicilline, ça ne sera pas la même chose que la tylosine. Voilà, donc, mais de façon générale, tout ce que nous avons au niveau du Burkina, il n'y a pas un médicament dont le délai d'attente dépasse 30 jours. Donc nous on conseille quand vous administrez un antibiotique ou un antiparasitaire, il faudrait attendre minimum 30 jours avant d'amener votre animal à l'abattoir ou bien à la commercialisation ou à l'assiette du consommateur.
Docteur, je vous remercie.
Merci à vous pareillement.
Momo et Nafou.
Alors que la santé et l'entretien du bétail sont des défis pour les éleveurs déplacés, une autre question se pose. L'embauche bovine est-elle encore une activité rentable dans ces conditions? Momo n'y croit pas une seconde. Pour lui, l'élevage est une perte de temps. Mais Nafou est bien décidé à lui prouver le contraire. Réussira-t-elle à le convaincre? Suivons.
Bonjour Nafou.
Momo, bonjour.
Hé, Nafou, mais pourquoi tu t'embêtes avec ces bœufs? On dirait que tu veux devenir éleveuse maintenant, quoi. Vraiment.
Et pourquoi pas, Momo? L'embauche bovine, c'est une vraie opportunité pour nous, hein, Momo?
L'embauche bovine? C'est quoi encore ce mot compliqué? Tu as trouvé ça où?
Non, Momo, c'est simple. C'est l'élevage de bœufs pour les engraisser et les revendre. Tu les nourris bien pendant quelques mois et après, tu les vends à un bon prix, c'est simple.
Nafou, et tu penses que ça peut marcher pour des gens comme nous là?
Mais bien sûr, Momo. Ici, on n'a pas beaucoup de terres à cultiver, mais on peut élever des bœufs. Avec peu de moyens, tu peux commencer et ça rapporte un Momo.
Et selon toi, combien ça rapporte exactement? On peut gagner vraiment.
Imagine, Momo, tu achètes un jeune bœuf à 150 000 francs par exemple. Après 6 mois d'engraissement, tu peux les revendre à 300 000 ou même 400 000, hein?
Hein? Mais ça fait un gros bénéfice, hein?
Eh oui. Et ce n'est pas tout, Momo. Les résidus de nos cultures, comme le maïs ou le mil, servent de nourriture. Ça réduit les coûts, Momo.
D'accord, mais il faut de l'argent pour commencer, non?
C'est vrai. Mais il y a des associations et des ONG qui aident les déplacés internes à démarrer des projets comme ça. Avec un peu de motivation, tu peux trouver du soutien à un moment.
D'accord. Et après, on fait quoi avec l'argent?
On peut le réinvestir pour acheter d'autres bœufs ou améliorer nos conditions de vie. Payer l'école des enfants, acheter des médicaments ou même construire un abri.
Mais il faut avoir du temps pour s'en occuper, hein?
Oui, ça demande un peu d'effort. Mais c'est mieux que de rester là à ne rien faire, hein, Momo? Ou bien?
Peut-être que tu as raison. Moi aussi, je pourrais essayer. Mais si mes bœufs ne grossissent pas, je viendrai me plaindre chez toi, tu me connais.
Si tu les nourris bien, Momo, et que tu prends bien soin d'eux, ils grossiront. Et si tu te lances, tu verras, Momo, c'est un investissement qui peut changer nos vies.
De la manière dont je vais les faire manger pour qu'ils soient gros et gras, là. Toi-même, tu vas les voir, tu ne vas pas croire.
Kibar utile.
Si certains doutent encore de la rentabilité de l'embauche bovine, d'autres y voient une belle opportunité économique. En plus d'être un moyen de subsistance, elle pourrait aussi transformer le marché de la viande. Selon le docteur Moussa Ouedraogo, médecin vétérinaire, cette pratique pourrait réduire les coûts tout en offrant une viande de qualité en plus en quantité. Dans cette interview exclusive réalisée par Awamoniratou Tankwano, il partage ses précieux conseils pour réussir l'embauche et en tirer le maximum de bénéfices.
Bonsoir docteur.
Oui, bonsoir.
Dites-nous, qu'est-ce que l'embauche?
Et l'embauche, c'est une spéculation qui consiste à mettre en valeur certains types d'animaux spécifiques afin de pouvoir les commercialiser dans un temps record.
Est-ce qu'on peut faire l'embauche partout?
Que ce soit à la ferme ou à la maison. L'essentiel est qu'il soit vraiment dans un cadre qui est bien circonscrit éviter trop de mouvements pour pouvoir maximiser sur les gains de poids.
Mais quelles sont les bonnes pratiques quand on veut faire de l'embouche?
En matière d'embouche, il faut reconnaître qu'il y a essentiellement trois facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier de ces facteurs, c'est d'abord c'est quel type d'animaux nous choisissons. Parce que si on prend un animal trop jeune, on trouvera beaucoup de difficultés pour pouvoir l'engraisser et les faire sortir dans les 3-4 mois à venir. Si on prend aussi un animal qui a des antécédents pathologiques, ça sera très difficile en réalité de pouvoir le faire sortir dans un temps record. Donc le choix de la race et de l'animal est très important. Le deuxième aspect aussi qui rentre en ligne de compte, c'est surtout l'alimentation. Parce que chaque animal a ses besoins quotidiens qu'il faut satisfaire. Donc si vous décidez de faire l'embouche, il faudrait couvrir tous les besoins nécessaires en fait de l'animal. Le troisième élément qui rentre en ligne de compte, vous pouvez regrouper le bâtiment. Est-ce que le bâtiment permet vraiment de bien ventiler l'air pour que l'animal puisse potentialiser son potentiel génétique? Est-ce que, il n'y a pas trop de pathologies dans le coin? Donc si ces trois facteurs sont vraiment bien réunis, vous pouvez bien réussir votre élevage d'embouche.
Et en termes d'animaux, quel est le meilleur choix pour l'embouche dans notre contexte burkinabé?
Il faut dire que le prix à l'achat de l'animal, que ce soit les bovins ou les ovins, ça a pris un coup. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de choisir en fait des animaux qui ont déjà l'âge rempli. On va dire par exemple pour les bovins, il faudrait qu'ils atteignent au minimum 5 ans, mais à la limite 3 ans, 4 ans c'est acceptable. Mais l'idéal vraiment c'est 5 ans parce qu'à ce moment, tous les dents de l'animal sont au complet. Donc il peut manger comme il se doit et potentialiser vraiment son potentiel génétique. Également, vous pouvez trier des animaux qui sont à la réforme, c'est-à-dire des animaux qui sont en fin de carrière. Voilà, on peut les valoriser parce qu'à ce moment, ils deviennent un peu moins chers. Donc, le prix à l'achat devient raisonnable. Le troisième aspect aussi qu'on peut trier, ce sont les animaux qui sont maigres, mais en réalité, qui ne sont pas malades. Si l'animal est malade, il ne faut pas le choisir. Donc, il faut choisir maigre parce que tout simplement, son prix à l'achat aussi sera un peu faible. Donc, après, si vous ajoutez en fait de l'aliment énergétique, vous pouvez le sortir et gagner à quelque chose.
Si moi je décide aujourd'hui que je veux faire de l'embouche, est-ce que j'ai forcément besoin de l'accompagnement d'un vétérinaire pour mieux réussir mon embouche?
Faut pas dire qu'on n'a pas besoin de vétérinaire parce que c'est pas standard. En fonction des antécédents en fait de l'animal ou bien même au sein de la même exploitation, vous pouvez faire varier la formule pour l'adapter en fait aux besoins réels de l'animal. Parce que si l'animal consomme beaucoup et qu'il n'arrive pas à potentialiser, vous perdez. Voilà, tout ça pour optimiser tout cela, il faudrait vraiment un œil avisé. Et l'œil avisé ici, c'est le vétérinaire qui peut vraiment vous orienter dans la prise en charge et tout pour que vous puissiez mieux réussir votre élevage. Au-delà de ça, il faudrait aussi penser aux aspects pathologiques. L'animal peut être en incubation ou bien manifester des pathologies qui l'empêchent en réalité de potentialiser son aliment. Donc si le vétérinaire regarde, il pourrait mieux vous conseiller pour que vous puissiez réussir l'élevage. Et cela même va au-delà même de l'animal déjà en place, même jusqu'à l'achat. Il peut vous accompagner pour faire le bon choix, pour faire le tri, pour que vous puissiez vraiment réussir votre élevage. Ça permet vraiment d'optimiser et faire des gains qui sont remarquables en fait.
Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un vétérinaire. Quel conseil avez-vous à donner à des personnes qui n'ont pas ces moyens-là, mais qui souhaitent quand même se lancer dans l'embouche?
Je dirais, dans les villages ou bien dans les différents marchés à bétail, il y a quand même des gens qui sont avisés. Mais là aussi, j'ai dit de faire très attention parce que la plupart des gens ne sont pas véridiques dans ce qu'ils font. Ils pourront vous escroquer facilement, mais c'est de nouer en fait un certain lien avec les individus qui s'y connaissent bien. Et généralement, quand ils vous disent c'est un bon, c'est vraiment un bon. Mais cela n'empêche pas que quand vous grandissez un peu, faites toujours recours parce que le vétérinaire vous permettra vraiment d'optimiser et de gagner très rapidement.
Docteur Ouédraogo, une autre question. Quels sont les avantages liés à l'embouche?
Les animaux à la réforme, en fin de carrière, l'embouche permet de les mettre en valeur. Actuellement, vous remarquez sur le marché que le prix du kilo de viande a considérablement augmenté, et ce pour un peu dans la sous-région, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, parce que tout simplement, nous, dans le Sahel, on n'arrive plus à satisfaire le marché. Donc, ce qui fait que l'embouche est une des techniques qui permet en fait d'avoir de la viande en quantité, en un temps record.
Docteur, je vous remercie.
Merci à vous.
bonne arrivée.
Perdre sa maison, ses repères et son mode de vie, c'est le quotidien de nombreuses familles déplacées internes au Burkina Faso, contraintes de tout recommencer ailleurs. À Fatane Gourmand, la famille Bari tente de s'adapter à une nouvelle réalité entre difficultés économiques, espoir d'intégration et rêve de retour. Quels sont leurs espoirs pour l'avenir? Sita Diallo est allée à leur rencontre. C'est la bonne arrivée de cette semaine.
Bonsoir chers tous, aujourd'hui nous sommes au secteur 1 de Fadane Gourma pour échanger avec la famille Bari, une famille déplacée interne dans la ville de Fadane Gourma. Bonsoir monsieur Bari.
Oui, bonsoir monsieur.
Votre soirée.
Oui, ça va bien.
C'est depuis quelle année vous êtes venu à Fada?
Avec ma famille, c'est 2022. On est quitté Pama et puis venir à Fada. Nous sommes une quinzaine de personnes.
Quand vous étiez à Pama, comment était votre vie par rapport à ici? Qu'est-ce que vous faisiez à Pama? Et quand vous êtes arrivé à Fada aussi, qu'est-ce que vous faites maintenant?
Quand on était à Pama, on était fiers parce qu'il y avait tout. Je peux dire tout ce qu'on voulait, on mangeait ça, on cultivait. Donc on faisait des petits élevages. Donc, mais quand on est venu ici, tout est bloqué. On a changé de thème de travail, tout ça, ça va pas. C'est quand je suis arrivé ici, on est rentré dans l'artisanat, on faisait des sacs à nattes, l'ipico, et bon, il y a beaucoup de choses qu'on faisait pas, mais tout ça marche pas, ça paye pas.
Mais quand vous êtes arrivé ici, comment vous avez fait pour pouvoir intégrer ce métier-là, pour pouvoir trouver ce métier à faire?
Bon, j'étais, même à Pama, j'étais un responsable de l'association. Je suis président de personnes vivant avec un handicap. Donc, quand je suis venu ici, je suis venu collaborer avec une association de personnes handicapées. Donc, on travaille ensemble. C'est grâce à eux que nous, on a pu évoluer avec ce métier-là. Donc, c'est l'association des personnes handicapées du Gourma. Il s'appelle Yuma Misser.
Okay. Mais est-ce que ce métier vous permet peut-être souvent à satisfaire certains besoins de la famille?
Effectivement, avant, on gagnait beaucoup. Les familles étaient satisfaites parce que c'est ça que je dis. Maintenant, là, tout est bloqué. Parce que les anciens, ça mangeait. C'est pas pour payer les picots, chers, tout ça soit. Donc, c'est tout cela que c'est un peu. Il y a beaucoup de difficultés, ça paye pas.
Ok, mais comment vous êtes avec vos voisins ici? En tant que personne déplacée interne à Fada, comment vous êtes avec vos nouveaux voisins de Fada?
Voilà, je peux dire, c'est le voisinage là, c'est bon. Parce que tu vois comment on est avec des élèves, ils sont des écoles et puis nos voisins. Chaque fois, chacun passe, dit les voisins bonjour, comment va. Même si quelqu'un est malade, nous, on se rend visite. Donc, on collabore, on travaille ensemble.
Ok, bien, merci. Merci, Abdullah. Je vais aller chez Tansin Balkisa. Bonsoir, Balkisa.
Bonsoir, comment
vous? Ça va très bien.
Je suis une élève en classe de seconde.
Mais quelles sont tes difficultés en tant qu'élève ici?
Il y en a des. Parce que même frais de scolarité, là-même, je n'ai pas payé d'abord.
Quand vous étiez à Pama, qu'est-ce que vous gagnez là-bas à manger et puis ici, vous ne gagnez pas? Ou bien, qu'est-ce qui a changé?
Nourriture qu'on gagnait là-bas. En tout cas, il y avait lait, il y a thé et il y a riz. Ici, là, il n'y a pas de lait. Toi là aussi, ça te prie à dire.
Merci. Donc, je vais aller discuter avec madame
Sondé Maria. Bon, étudiante, mais pour le moment suspendue. Ouais. Je peux dire étudiante et ménagère en même temps.
Donc, pour le moment, c'est le côté ménage là,
voilà, c'est le côté ménage qui domine pour le moment.
Étudiante en quelle filière?
Bon, c'était histoire et archéologie.
Où?
Et à Fada ici, à Mariam Biolé.
Ah, ok. Est-ce que tu peux nous dire, toi aussi, quand tu étais à Pama, comment était la vie?
Bon, quand on était à Pama, en tout cas, la vie de Pama et à Fada, il n'y a même pas à comparer. Parce que là-bas, en tout cas, ça allait un peu.
par rapport à Fada. Puis encore que c'est une, disons, la ville aussi, tout est dur.
Quelles étaient vos activités apparemment? Comment vous vous en sortiez?
Et en tout cas, notre principale activité apparemment, bon, disons, les parents, maintenant, eux, ils étaient des éleveurs. Voilà, comme nous, on était des élèves.
D'accord. Quels sont vos souhaits?
Ah, vraiment, nos souhaits est que la paix revienne seulement dans le passé pour qu'on puisse repartir chez nous seulement.
Monsieur Bali, je vais revenir sur vous. Quelles sont vos difficultés actuellement?
Première difficulté, je peux dire, c'est logement. Et la deuxième, c'est la nourriture, le vivre. Des fois, locataires viennent nous dire, ah, voici, fin de mois arrivé, il faut payer. Si tu n'as pas, des fois, ils disent, ah, faut ramasser tes effets, faire sortir, il y a des gens qui veulent. Alors, que toi-même tu veux, mais il n'y en a pas pour payer. Entre-temps, nous, on disait même, on va suivre même les convois pour partir à Pama. Parce qu'ici, on ne peut pas passer.
Révélée au grand public grâce à The Voice Afrique francophone, elle a su s'imposer avec son talent et son engagement. Médaillée d'argent en chanson aux Jeux de la Francophonie 2023 et récompensée au Faso Music Award 2024, elle est également ambassadrice pour l'égalité des genres auprès du plan international. Aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de partager avec nous son parcours, ses inspirations et ses projets. Flora Paris à l'état civil, Flora Konati Paris. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là.
Plaisir partagé. Vous vous inspirez de grandes voix comme Angélique Kidjo, Tracy Chapman ou Aretha Franklin. Comment ces artistes ont-elles influencé votre style et votre approche musicale?
Il faut dire que, comme vous l'avez dit, ce sont de très grandes voix. Donc, déjà par leur voix, par l'émotion qu'elles véhiculent et par les messages aussi qu'elles véhiculent dans leurs chansons, elles m'ont touchée depuis toute petite. C'est à cela que j'aspire, pouvoir avoir des messages qui ont du contenu, des messages qui portent réellement, qui ont une importance, qui ont un impact. Voilà, avec la voix qu'il faut et l'émotion qu'il faut pour pouvoir toucher les cœurs.
Vous êtes très engagée pour la promotion de la culture saine et des causes sociales, notamment la paix et les droits des femmes et des enfants. Comment parvenez-vous à allier musique et engagement dans votre carrière?
Pour moi, la musique n'a d'importance que quand elle va au-delà de simplement la mélodie. La musique doit avoir un message, doit porter un message, porter un espoir. L'amour du prochain s'exprime en particulier ce qu'on essaie de faire pour les autres. Et pour moi, la musique est une arme par laquelle je me bats pour que la vie soit plus simple pour mon prochain. C'est tout simplement ça. Et donc, j'utilise ma musique, j'utilise mon arme, ce que j'ai, ce dont je dispose, pour pouvoir diffuser des messages positifs et appeler à l'éveil des consciences sur certaines causes qui me portent particulièrement à cœur.
Existe aussi pour toi, il est à portée de tes doigts. Saisis ta chance, lève-toi et recommence. L'espoir existe aussi pour toi, il est à portée de tes doigts. Saisis ta chance, bats-toi et avance. L'univers des possibles est aussi grand que l'horizon. Et il te tend la main, il te dit, viens, allons vivre tes rêves. Il est ouvert pour toi, pour moi, peu importe nos nations. Et il ne tient qu'à nous d'en faire une réalité aujourd'hui.
Félicitations, quelle belle voix, quelle voix suave.
Merci beaucoup. Fora,
dites-nous d'où est venue l'inspiration de cette chanson Espoir et qu'est devenu retenir de cette chanson?
Je dirais que l'inspiration est venue de ma propre situation à l'époque où je l'écrivais. Et je pense que j'avais besoin de croire en mes rêves. Et c'est le message que j'ai eu envie de transmettre aux autres. Parce que voilà, il faut croire en ses rêves. Il faut tout faire pour les atteindre. C'est vrai qu'on n'a pas tous la chance de commencer à un niveau plus ou moins élevé pour réaliser ses rêves. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas y croire. Parce que certains sont vraiment partis de zéro et sont vraiment devenus des héros. Donc il faut y croire.
Nous tirons tout doucement vers la fin de notre entretien. Flora Paré, le Burkina Faso traverse une période de crise, d'insécurité, qui a fait des déplacés internes. Quel message pour ces déplacés et autres qui nous écoutent actuellement à travers nos radios partenaires?
Ce que j'aimerais dire aux déplacés internes, c'est que nous ressentons votre douleur parce que nous savons ce que c'est de ne pas pouvoir aller chez soi en paix. C'est quelque chose que nous savons que vous vivez dans votre chair et que nous vivons avec vous. Et que nous espérons vraiment que notre pays va retrouver la paix et que chacun de nous puisse retrouver sa terre. Parce qu'il n'y a rien de plus important que cet attachement-là. Et à tous ceux qui les accueillent, je dis franchement merci. Merci beaucoup. Vous êtes des anges sur terre. Vous êtes ce que le Burkinabé représente vraiment, c'est-à-dire la solidarité, la famille. Et il n'y a pas que le sang qui fait la famille, c'est l'amour qui fait la famille avant tout.
Bien sûr. Merci infiniment Flora Paré. Et c'est avec ces mots de compassion et d'appel à l'unité que nous mettrons fin à notre entretien. Puisse Dieu vous accompagner dans votre carrière musicale.
Amen.
Et qu'il fasse aussi régner la paix au Burkina Faso.
Amen, doublement.
Merci bien.
Merci beaucoup. À portée de tes doigts, l'espoir à portée de tes doigts.
Ainsi se termine cette édition de Faso Yafa. Prière, restez solidaires, vigilants et porteurs de paix dans vos communautés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Faso Yafa où l'humanisme prend tout son sens. Prenez soin de vous. À bientôt.